Histoire de la Réformation du XVIe siècle, 14.2. Le couronnement. L'empereur sert la messe. L'Église et l'État dans la papauté. Malaise du pape. Alarmes et courage des protestants. Avis de Luther et de Bruck. Départ de l'électeur et des théologiens. Luther à Cobourg. Charles à Innsbruck. Deux parties à la cour. Opinion de Gattinara. Trois princes ultramontains. Caractère de l'électeur. Manœuvre des ultramontains. Premier échec. Charles Quint, comme jadis Charlemagne, et plus tard Napoléon, voulait être couronné par le pape, et avait d'abord pensé à se rendre dans ce dessein à Rome. Mais les lettres pressantes de Ferdinand lui firent choisir Bologne. Il fixa le 22 février pour recevoir la couronne de fer comme roi de Lombardie, et résolut de recevoir la couronne d'or comme empereur des Romains, le 24 du même mois, jour qui était à la fois celui de sa naissance et l'anniversaire de la bataille de Pavie, et qu'il pensait lui être toujours favorable. Les fonctions d'honneur qui appartenaient aux électeurs de l'Empire avaient été données à des étrangers. Dans le couronnement de l'empereur d'Allemagne, tout était espagnol ou italien. Le sceptre était porté par le marquis de Montferrat, le glaive par le duc d'Urbain et la couronne d'or par le duc de Savoie. Un seul prince allemand de peu d'importance, le comte palatin Philippe, était présent. Il portait le globe. Après ses seigneurs, venait l'empereur lui-même entre deux cardinaux, puis les membres de son conseil. Toute cette procession défilait sur un pont magnifique établi entre le palais et l'église. Au moment où l'empereur arrive à l'église de San Petronio, où le couronnement devait se faire, l'échafaudage craque derrière lui et s'écroule, en sorte que plusieurs personnes de sa suite sont blessées et que la multitude s'enfuit, pleine d'effroi. Charles, tranquille, se retourne et sourit, ne doutant pas que sa bonne étoile ne l'ait sauvé. Enfin, Charles Quint est devant le trône où siégeait Clément VII. Mais avant que d'être fait empereur, il devait être promu aux ordres sacrés. Le pape lui présenta le surplis et l'aumus pour le faire chanoine de Saint-Pierre et de Saint-Jean de Latran. Et aussitôt, les chanoines de ces deux églises le dépouillèrent de ses ornements royaux et le revêtirent des habits sacrés. Le pape monta à l'autel et commença la messe, et le nouveau chanoine s'approcha pour la servir. Après l'offertoire, l'empereur diacre présenta l'eau au pontife. Puis, il se mit à genoux entre deux cardinaux et communia de la main du pape. Alors, l'empereur étant revenu près de son trône, les princes le revêtirent du manteau impérial à portée de Constantinople, et tout étincelant du diamant. Charles se mit humblement à genoux devant Clément VII. Le pontife, l'ayant oint d'huile et lui ayant remis le sceptre, lui présenta l'épée nue et lui dit « Servez-vous-en pour la défense de l'Église contre les ennemis de la foi. » Ensuite, saisissant le globe d'or semé de pierreries que tenait le comte palatin, « Gouvernez le monde, dit-il, avec piété et avec fermeté. » Alors s'approcha le duc de Savoie qui portait la couronne d'or enrichie de diamants. Le prince baissa la tête et le pontife le couronna en disant « Charles, empereur invincible, recevez cette couronne que nous vous mettons sur la tête en témoignage à toute la terre de l'autorité qui vous est confiée. » Alors, l'empereur, baisant la croix blanche brodée sur la pantoufle rouge du pape, s'écria « Je jure d'employer à jamais toutes mes forces à défendre la dignité pontificale et l'Église de Rome. » Puis, les deux princes s'étant assis sous un même dais mais sur des trônes inégaux, celui de l'empereur étant plus bas d'un demi-pied, le cardinal diacre proclama au peuple l'invincible empereur défenseur de la foi. Et pendant une demi-heure, on n'entendit que le bruit de la mousqueterie, des trompettes, des tambours, des fifres, des cloches de toute la ville et des cris de la multitude. Ainsi était de nouveau proclamée l'union intime de la politique et de la religion. Le grand empereur, transformé en diacre romain et servant humblement la messe comme chanoine de Saint-Pierre, avait figuré et constaté l'union indissoluble de l'Église romaine et de l'État. C'est l'une des doctrines essentielles de la papauté et l'un des caractères les plus marquants qui la distingue de l'Église évangélique et chrétienne. Néanmoins, durant toute cette cérémonie, le pape semblait mal à son aise et soupirait dès que les regards ne se portaient pas sur lui. Aussi, l'ambassadeur français écrivit-il à sa cour que ces 4 mois que le pape et l'empereur avaient passés ensemble à Bologne porteraient des fruits dont le roi de France n'aurait certes pas à se plaindre. À peine Charles Quint s'était-il relevé de l'autel de San Petronio qu'il se dirigea vers l'Allemagne et parut sur les Alpes comme loin de la papauté. La lettre de convocation, si indulgente et si bénigne, semblait oubliée. On ne pensait dans la caravane impériale qu'à des mesures de rigueur, et le légat Campechi ne cessait de souffler d'irritantes paroles à l'oreille de Charles. Au premier bruit de l'orage qui les menace, dit Granvelle, on verra les protestants s'enfuir chacun de son côté, comme de timides colombes sur lesquelles fond l'aigle des Alpes. La terreur fut grande dans l'Empire. Déjà même le peuple effrayé et appréhendant les plus grands désastres répétait partout que Luther et Mélenchon étaient morts. Hélas, disait en apprenant ses discours, Mélenchon consumé de tristesse, ce bruit n'est que trop véritable, car je meurs tous les jours. Mais Luther, au contraire, levant courageusement vers le ciel le regard de la foi, s'écriait « Nos ennemis triomphent, mais pour bientôt périr. » En effet, les conseils de l'électeur déployaient une audace inouïe. « Rassemblons nos soldats, disait-il, marchons sur le Tyrol et fermons à l'empereur le passage des Alpes. » Philippe de Hesse, en apprenant ces paroles, jeta un cri de joie. Enfin, l'épée de Charles a réveillé les indolents Saxons. Aussitôt, de nouveaux courriers envoyés par Ferdinand partent pour presser l'arrivée de Charles, et l'Allemagne est dans l'attente. Avant que d'accomplir ce gigantesque dessein, l'électeur voulut encore une fois consulter Luther. Il lui fit donc demander s'il était permis de résister à Sa Majesté impériale dans le cas où elle voudrait contraindre quelqu'un pour cause de conscience. L'empereur n'était au milieu des électeurs que le premier entre ses égaux, et il était permis à des princes indépendants de résister à un autre prince, fût-il même plus élevé qu'eux. Mais Luther, craignant par-dessus tout le bras séculier, répondit le 6 mars. Les sujets de nos princes sont aussi sujets de l'empereur, et le sont même plus qu'ils ne le sont des princes. Protéger les armes à la main, les sujets de l'empereur contre l'empereur, ce serait comme si le bourgmestre de Torgau voulait, avec les armes, protéger ses bourgeois contre l'électeur. Que faut-il donc faire? Le voici, répond Luther. Si l'empereur veut marcher contre nous, qu'aucun prince ne prenne notre défense. Dieu est fidèle, il ne nous délaissera pas. Les préparatifs de guerre furent aussitôt abandonnés. le Landgrave poliment éconduit et la Confédération dissoute. Dieu voulait que sa cause se présentât devant l'empereur sans ligue et sans soldats, n'ayant que la foi pour triompher. Jamais peut-être on ne vit tant de hardiesse dans des hommes faibles et désarmés, mais jamais aussi, quoique sous une apparence d'aveuglement, tant de sagesse et d'intelligence. On examina alors, dans les conseils de l'électeur, s'il se rendrait à la diète. La plupart de ses conseillers s'y opposaient. « N'est-ce pas tout hasardé, disait-il, que d'aller s'enfermer dans les murs d'une ville avec un puissant ennemi ?» Bruck et le prince électoral furent d'un avis contraire. Le devoir était, selon eux, un meilleur conseiller que la crainte. « Quoi, disait-il, l'empereur n'insisterait tant sur la présence des princes à Augsbourg que pour les attirer dans un piège ? Nous ne pouvons lui imputer une telle perfidie. » Le Landgrave, au contraire, appuya l'avis de la majorité. « Souvenez-vous de Plaisance, dit-il. Telle circonstance imprévue peut engager l'empereur à prendre d'un coup de filet tous ses ennemis. » Le chancelier tint ferme. « Que les princes se comportent seulement avec courage, s'écria-t-il, et la cause de Dieu est sauvée. » On se décida pour le parti le plus noble. Cette diète devait être un conseil laïque, ou tout au moins une convention nationale. Les protestants prévoyaient qu'on leur ferait d'abord quelques concessions peu importantes, et puis qu'on leur demanderait de sacrifier leur foi. Il fallait donc établir quels étaient les articles essentiels de la vérité chrétienne, afin de savoir si, comment et jusqu'à quel point on pourrait en bonne conscience s'entendre avec les adversaires. L'électeur fit en conséquence écrire le 14 mars aux quatre principaux théologiens de Wittenberg pour leur demander ce travail, toute affaire cessante. Ainsi, au lieu de rassembler des soldats, le prince recueillait des articles. C'était le meilleur armement. Luther, Mélenchon et Jonas, Pomeranus restant à Wittenberg, arrivèrent à Torgau dans le cours de la semaine de Pâques et demandèrent de remettre eux-mêmes leurs articles à Charles Quint. « À Dieu ne plaise, répondit l'électeur, je veux aussi, moi, confesser mon Seigneur. » Puis Jean, ayant confié à Mélenchon la rédaction définitive de la confession et ordonné des prières générales, se mit en route le 3 avril avec 160 cavaliers couverts de riches casaques d'écarlate brodées d'or. Chacun comprenait quel danger menaçait l'électeur et la cause de l'Évangile. Aussi plusieurs dans son escorte marchaient-ils l'œil morne et l'âme abattue. Mais Luther, plein de foi, relevait le courage de ses amis en composant et chantant de sa belle voix le cantique devenu dès lors si fameux. C'est une forteresse que notre Dieu. Jamais une âme qui connaît sa faiblesse, mais qui, regardant à Dieu par la foi, méprise toutes les terreurs, ne trouva de si nobles accents. Le néant voilà notre état, la mort voilà notre conquête. Mais un homme pour nous combat, dont Dieu même couvre la tête. Quel est son nom? C'est Jésus-Christ qui du ciel commande l'armée. Seul il reste par son esprit sur le champ couvert de fumée. On chanta ce cantique pendant la diète, non seulement à Augsbourg, mais encore dans toutes les églises de la Saxe, et souvent l'on vit ces énergiques accords relever et enthousiasmer les esprits les plus abattus. La veille de Pâques, la caravane arriva à Cobourg. Le 23 avril, l'électeur se remit en marche. Mais au moment du départ, Luther reçut l'ordre de demeurer. il s'est trouvé quelqu'un qui m'a dit « Tais-toi, tu as la voix aigre », écrivit-il à l'un de ses amis. Il se soumit toutefois sans hésiter, donnant l'exemple de cette obéissance passive qu'il prêchait si fort. Les lecteurs craignaient que la présence de Luther n'exaspérât encore plus ses adversaires et ne portât Charles à quelque extrémité. La ville d'Augsbourg lui avait écrit dans ce sens. Mais en même temps, Jean tenait à conserver le réformateur à sa portée, de manière à pouvoir prendre ses avis. Luther s'établit donc dans le château de Cobourg, bâti sur une hauteur d'où l'on domine la ville et la rivière de Litz, et se logea dans l'étage supérieur du côté du Midi. C'est de là qu'il écrivit ses nombreuses lettres datées de la région des oiseaux. C'est là aussi que pendant plusieurs mois, il eut à soutenir avec son ancien ennemi de la Wartbourg, Satan, des luttes si pleines de ténèbres et d'angoisse. Le 2 mai, l'électeur arriva à Augsbourg. On avait cru qu'il s'abstiendrait, et au grand étonnement de tous, il était le premier au rendez-vous. Il envoya aussitôt Dolzig, maréchal de sa cour, au-devant de l'empereur pour le complimenter. Le 12 mai, Philippe de Hesse, qui s'était enfin décidé à ne pas se séparer de son allié, arriva aussi, entouré de 190 cavaliers. Presque en même temps, l'empereur entra dans Innsbruck, en Tyrol, accompagné de son frère, des reines de Hongrie et de Bohême, des ambassadeurs de France, d'Angleterre et de Portugal, de Campeggi, légat du pape, d'autres cardinaux, et de plusieurs princes et seigneurs d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. On ne tenait pas à faire monter les hérétiques sur l'échafaud, mais on voulait faire en sorte qu'infidèles à leur foi, ils fléchissent les genoux devant le pape. Charles s'arrêta à Innsbruck pour assurer la réussite de ses projets. À peine eut-on appris son arrivée, qu'une foule de princes, de seigneurs, de prêtres accoururent de tous côtés, et plus de 270 000 écus, prélevés en Italie, servirent à faire comprendre aux Germains la justice de la cause de Rome. « Tous ces hérétiques, disait-on, vont tomber en terre et ramper aux pieds du pape. » Charles ne pensait pas de même. Il était au contraire étonné de voir la puissance que la réformation avait acquise. Il eut même un moment l'idée de laisser là Augsbourg et d'aller droit à Cologne y proclamer son frère roi des Romains. Ainsi, l'intérêt religieux eut cédé le pas à l'intérêt dynastique. Au moins le bruit en courut-il. Mais Charles Quint ne s'arrêta pas à cette pensée. La question de la réformation était là, grossissant d'heure en heure, et l'on ne pouvait l'éluder. Deux partis se partageaient la cour impériale. L'un, nombreux et actif, demandait que l'empereur annulât simplement l'édit de Worms et, sans entendre les protestants, condamna leur cause. À la tête de ce parti se trouvait le légat. « N'hésitez pas, disait-il à Charles, confisquez leurs biens, établissez l'inquisition et punissez avec le fer et le feu ces hérétiques obstinés. » Les Espagnols, qui appuyaient fort ces exhortations, ne laissaient pas que de se livrer à la débauche, en sorte que plusieurs d'entre eux furent arrêtés pour séduction. C'était un triste échantillon de la foi qu'ils voulaient imposer à l'Allemagne. Rome a toujours fait bon marché des mœurs. Gattinara, quoique malade, s'était traîné à la suite de Charles pour paralyser l'influence du légat. Adversaire prononcé de la politique romaine, il pensait que les protestants pouvaient rendre de grands services à la chrétienté. « Il n'y a rien que je désire autant, disait-il, que de voir les lecteurs de Saxe et ses alliés persévérer courageusement dans la profession de l'Évangile et réclamer un concile pieux et libre. S'ils se laissent arrêter par des menaces ou des promesses, j'hésite moi-même, je chancelle et je doute de la voie du salut. Les hommes éclairés et honnêtes de la papauté, et il y en a toujours eu un certain nombre, sympathisent nécessairement avec la réforme. Charles Quint, exposé à ces influences contraires, désirait ramener l'Allemagne à l'unité religieuse par son intervention personnelle. Il se crut un moment sur le point d'y réussir. Parmi les personnages accourus à Innsbruck, se trouvait le malheureux Christian, roi de Danemark, beau-frère de Charles. En vain avait-il offert à son peuple, pour expier les cruautés dont on l'accusait, de faire un pèlerinage à Rome. Ses sujets l'avaient chassé. Arrivé en Saxe chez son oncle l'électeur, il y avait entendu Luther et avait embrassé la doctrine évangélique, au moins quant à la profession extérieure. Le pauvre roi détrôné ne résista pas à l'éloquence du puissant monarque des deux mondes. Et Christian, gagné par Charles Quint, se remit publiquement sous le sceptre de la hiérarchie romaine. Tout le parti papal poussa un cri de triomphe. Rien n'égale sa crédulité et l'importance qu'il attache à des accessions sans valeur. « Je ne puis décrire l'émotion dont cette nouvelle m'a remplie, » écrivit Clément VII à Charles Quint, d'une main que la joie rendait tremblante. « L'éclat des vertus de votre majesté commence enfin à dissiper les ténèbres. Cet exemple va entraîner des conversions sans nombre. » On en était là, quand arrivèrent précipitamment à Innsbruck le duc Georges de Saxe, le duc Guillaume de Bavière et l'électeur Joachim de Brandebourg, les trois plus grands ennemis de la Réformation parmi les princes d'Allemagne. La tranquillité de l'électeur qu'ils avaient vu à Augsbourg les avait effrayés, car ils ne connaissaient point la source où Jean puisait son courage. Ils s'imaginèrent qu'il roulait dans sa tête de perfides desseins. Ce n'est point sans raison, dirent-ils à Charles, que l'électeur Jean s'est rendu le premier à Augsbourg, et qu'il y paraît, avec une suite si considérable. Il veut s'assurer de votre personne. Agissez donc avec énergie, et permettez que nous offrions à votre majesté une garde de 6000 chevaux. On tint aussitôt conférence sur conférence. Les protestants furent effrayés. « On tient diète à Innsbruck, » dit Mélenchon, « sur le meilleur moyen d'avoir nos têtes. » Mais Gattinara obtint que Charles maintînt sa neutralité. Pendant que l'on s'agitait ainsi dans le Tyrol, les chrétiens évangéliques, au lieu de courir sur les places d'armes, comme on les en accusait, faisaient monter leurs requêtes vers le ciel. Et les princes protestants se préparaient à rendre compte de leur foi. L'électeur de Saxe tenait le premier rang parmi eux. Plein de cordialité, droit et chaste dès sa jeunesse, dégoûté de bonheur des brillants tournois auxquels il avait d'abord pris part, Jean de Saxe avait salué avec joie le jour de la Réformation, et la lumière évangélique avait peu à peu pénétré son esprit, grave et recueilli. Son plaisir était de se faire lire les Saintes Écritures durant les dernières heures du jour. Il est vrai que, parvenu à un âge avancé, le pieux électeur s'endormait quelquefois. Mais bientôt il se réveillait en sursaut et répétait à haute voix le dernier passage. Modeste ami de la paix, il y avait pourtant en lui une énergie qui excitait puissamment les grands intérêts de la foi. Il n'est aucun prince dans le XVIe siècle et peut-être depuis les premiers temps de l'Église, qui ait fait autant que Jean de Saxe pour la cause de l'Évangile. Ce fut sur lui aussi que se dirigèrent les premiers efforts des papistes. On voulait, pour le gagner, suivre une tactique toute différente de celle qu'on avait mise auparavant en œuvre. À Spire, les évangéliques n'avaient trouvé partout que des regards irrités. À Augsbourg, au contraire, les papistes leur faisaient bonne mine. Ils représentaient, comme de pures bagatelles, les différences qui séparaient ces deux parties, et glissaient, dans des entretiens intimes, des paroles pleines de douceur, cherchant ainsi à faire mordre à la pâle les protestants crédules, dit un historien. Ceux-ci se laissèrent prendre à ces habiles manœuvres. Charles Quint était convaincu que les simples Allemands ne pourraient résister à son étoile. « Le roi de Danemark s'est bien converti, lui disait-on. Pourquoi l'électeur ne suivrait-il pas son exemple ? Attirons-le dans l'atmosphère impériale. » Aussitôt, on fit inviter Jean à venir s'entretenir familièrement avec l'empereur à Innsbruck, l'assurant qu'il pouvait compter sur la faveur particulière de Charles. Le prince électoral Jean-Frédéric, qui, en voyant les avances des papistes, s'était d'abord écrié « Nous nous comportons avec tant de maladresse que cela fait pitié », se laissa lui-même tromper par cette ruse. « Les princes papistes, dit-il à son père, mettent tout en œuvre pour vous noircir. Allez à Innsbruck afin de dissiper ces sourdes pratiques, ou, si vous y répugnez, envoyez-moi à votre place. » Cette fois-ci, le prudent électeur modéra la précipitation de son fils. Il répondit au ministre de Charles qu'il ne convenait pas de traiter les affaires de la diète dans un autre lieu que celui que l'empereur avait lui-même désigné, et qu'il priait en conséquence Sa Majesté de hâter son arrivée. Ce fut le premier échec de Charles.